Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde avec un regard différent, parfois décalé, qui fait la richesse de votre radio. Pour la rédaction en anglais, nous sommes avec Laura Martel pour les regrets de Theresa May sur les lois anti-gays datant de l'Empire britannique.
Good evening.
Nina Nguyen de la rédaction chinoise pour nous parler des Coréens qui vont peut-être enfin mettre fin à la guerre en signant un traité de paix. Et puis Emam de la rédaction cambodgienne pour l'inauguration de la stèle de la commémoration à Paris en hommage aux victimes du régime des Khmer Rouges.
Source Day, Philippe.
Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, à l'approche de l'anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, il y a des prises de parole à la télévision et des sondages. Pizemam, justement, de la rédaction cambodgienne, il y a cette étude d'opinion de l'IFOP.
Oui, Philippe, dans le sondage de l'IFOP, on observe que plus de 4 Français sur 10 se déclarent satisfaits de l'élection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, c'est-à-dire 42%. C'est tout ce niveau de satisfaction est deux fois supérieur à celui observé pour François Hollande à la même époque et nettement au-dessus de celui de Nicolas Sarkozy.
Alors, quelles sont les explications à ce niveau de satisfaction élevé?
Eh bien, d'après les analyses de l'IFOP, il y a 4 raisons qui expliquent ce niveau de satisfaction élevé à l'égard d'Emmanuel Macron. Première raison, c'est que les Français estiment majoritairement qu'après un an, le chef de l'État tient les engagements qu'il a pris lors de la campagne présidentielle. Deuxièmement, l'actuel président de la République se distingue nettement de François Hollande en matière d'image. 73% des Français considèrent qu'il a de l'autorité, 67% dit qu'il sait où il va et 57% qu'il est compétent. Troisième raison, les Français dressent un bilan majoritairement positif de l'action d'Emmanuel Macron pour ce qui est des relations avec l'Union européenne. Dans l'ensemble, la majorité des Français ont un avis positif et que le président Macron incarne bien l'image de la France à l'étranger. Et dernière raison, la plupart des mesures mises en œuvre ou envisagées par le chef de l'État et son gouvernement sont approuvés par les Français, comme la création d'une police de sécurité du quotidien, la réforme des institutions ou la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers.
Laure Martel, à la rédaction anglophone, vous en avez plutôt tiré de ce sondage IFOP le fait que les résultats sont mitigés pour le chef de l'État. C'est intéressant d'avoir une double lecture.
Bah oui, c'était un peu ce que disait l'un de nos journalistes sur Internet. Alors certes, effectivement, un 42% d'opinion favorable, c'est plutôt un bon niveau de satisfaction. D'autant que cela vient après un fort recul, hein, moins 5, moins 4 points en février et en mars dernier. Alors oui, hein, c'est mieux que Hollande et Sarkozy. C'est moins bien en revanche que Chirac en 2003. Et reste donc, souligne l'un de nos journalistes, que la part de Français qui n'approuvent pas donc son action est à un niveau très élevé. 58% sont plutôt ou très mécontents. C'est près de 6 personnes sur 10 qui sont insatisfaits. Et puis justement, à propos de son image, 30% seulement considèrent qu'Emmanuel Macron est proche des préoccupations des Français, avec notamment un fort rejet des taxes pour les retraités et de sa gestion, notamment du dossier de la santé. Et puis pour finir, sur cette sorte d'ambiguïté, hein, de la manière dont il est perçu, j'ai plutôt trouvé intéressant de voir que, comme disait Pisseille, 73% des Français estiment qu'il a de l'autorité, mais exactement le même nombre, 73% le jugent autoritaire. Alors, avoir de l'autorité, être autoritaire, hein, deux qualificatifs plutôt proches, mais qui ne veulent pas dire du tout la même chose.
Pisemam, si le chef de l'État français affiche de si bons scores, est-ce que ce n'est pas aussi parce que il n'a en face de lui quasiment personne, il n'y a quasiment pas d'opposition à droite?
Oui, c'est vrai, Philippe. Après un an, Emmanuel Macron apparaît plus que jamais au centre de jeu politique dynamité depuis la séquence électorale en 2017. C'est tout ce sondage de bilan de son action montre à quel point ce nouveau président tire profit du nouveau contexte politique issu de l'élection présidentielle. La position centrale d'Emmanuel Macron dans le paysage politique lui est autant plus profitable que les oppositions apparaissent éparpillées et en mal de crédibilité. Imaginons si le premier tour de l'élection présidentielle devrait se rejouer ce dimanche, Emmanuel Macron arriverait très nettement en tête avec 33% d'intention de vote contre 24% en avril dernier.
Ouais, pour ce qui est d'un premier tour. Il y a donc les sondages, hein, qui attestent ce que pensent pensent les Français, des Français qui ont pu se faire une opinion du président de la République au fil des mois, également au travers de ses deux dernières interventions à la télévision. Et là, Laurent Martel, c'est moins le chef de l'État qui a été critiqué que les journalistes qui lui ont posé les questions.
Oui, même si l'entourage important d'Emmanuel Macron dans la presse admet que c'était aussi son intention à lui de casser les codes, de se montrer combatif et donc de s'opposer à des journalistes réputés pugnaces, eh bien plusieurs confrères justement et certains hommes politiques ont désapprouvé la manière dont a été mené cet entretien, allant de critiquer une certaine familiarité puisque les deux hommes se sont adressés au chef de l'État par son nom et pas par le traditionnel hein, Monsieur le Président, jusqu'à trouver qu'il s'était quasi muet en opposant. Écoutez un extrait de la réponse qu'Edoui Plenel, l'un des intervieweurs, a donné à Mathieu Kay.
There is a court society in France. We are the real monarchy in Europe. Our president, it was the same for Mitterrand.
Edoui Plenel, qui parle donc en anglais, alors retraduisez dans l'autre sens, que dit-il?
Eh bien qu'il y a un esprit de cour, de courtisan en France, la France qui est la véritable monarchie de l'Europe, dit-il. Tous les présidents ont un énorme pouvoir qui n'est pas remis en cause par une réelle culture démocratique. Je n'ai fait que mon boulot. Macron fait face à des contestations multiples et il était là pour être interviewé, pas pour qu'on fasse sa communication. C'est donc mon rôle de journaliste que de poser les questions que se pose le peuple, s'est-il exclamé.
Lui, Edoui Plenel, comme l'autre journaliste, ont été attaqués également à l'étranger. Vous êtes de la rédaction anglophone, vous avez lu le quotidien The Guardian. Qu'est-ce qu'il a écrit?
Eh bien, ce journaliste a écrit « Il n'y a rien de pire que les journalistes qui pensent qu'ils font partie de l'histoire. » Ce à quoi Edoui Plenel répond « Mais les journalistes, justement, font partie de l'histoire, ils ne sont pas coupés du peuple, comme les en son temps d'ailleurs Joseph Pulitzer qui a donné son nom au fameux prix. Nous ne sommes pas neutres dans le sens où nous menons des campagnes pour les citoyens et ce qui est crucial selon Plenel, c'est de publier des informations véridiques. Dans cette interview, donc, je précise qu'il s'agissait d'un entretien sur les 10 ans de Mediapart que vous pouvez retrouver un peu de pub dans notre magazine International Media qui sera diffusé ce dimanche à 6h35 temps universel sur notre antenne.
Donc ça c'est pour la séquence qui a duré quelques jours où il y a eu deux interventions présidentielle. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, Nina Wang, s'est exprimé devant le Parlement européen. Alors là, il y a un discours très suivi par la Chine, attentif surtout à la France et à l'Allemagne, qui sont les deux moteurs de la croissance de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ont retenu précisément les médias chinois, Nina?
Le rappel de Macron au danger des tentations autoritaires, des égoïsmes nationaux et du soupçon envers les valeurs européennes a été considéré comme fort et convaincant par les médias officiels chinois. Mais il y a un point très important, c'est que selon le journal chinois Economy, les divergences entre la France et l'Allemagne continuent à se fissurer et c'est pas bon signe pour l'économie européenne. Il critique que Macron n'a pas vraiment parlé des essentiels de la réforme de l'Union, contrairement à ce qu'il a proposé, moins de slogans, plus d'actions.
Alors, quelle en est la raison?
Le journal cite un proverbe chinois, une relation s'affaiblit toujours face à des problèmes d'argent. Et c'est bien un problème d'argent entre la France troublée par les réformes qui stagnent et l'Allemagne qui vient de terminer un processus fatigant de la formation du gouvernement. Déjà, l'Allemagne reste peu intéressée par les propositions françaises sur la zone euro et l'industrie bancaire européenne. Ensuite, sur l'alliance d'émissions de CO2 que la France propose, l'Allemagne la considère comme un nouveau moyen que la France veut faire bénéficier ses propres centrales nucléaires, alors que l'Allemagne, beaucoup plus dépendante du charbon, ne va pas tirer beaucoup d'intérêt. En plus, récemment, le ministre allemand de l'économie, Altmaier, s'est rendu à Washington plutôt que la commissaire européenne Malmström pour défendre l'Allemagne dans les frictions commerciales européo-américaines et ça n'a pas du tout plu à la France.
Du reste, la reprise de l'économie de l'Union européenne n'est pas fracassante comparée à l'essor de celle de la Chine.
C'est vrai qu'une croissance accélérée de l'Union européenne n'est pas vraiment réaliste. En plus de la baisse de l'indice des directeurs d'achat des 2%, la croissance en mars de l'industrie manufacturière de la zone euro est au plus bas depuis 8 mois. Certains médias chinois analysent qu'une bonne partie de la responsabilité de l'Allemagne sur la réforme de l'Union tombe justement sur les épaules de la France à cause des problèmes du nouveau gouvernement allemand.
Voilà pour ce premier tour de table. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prenaient le contrôle de Phnom Penh et s'emparaient du pouvoir. Ce furent alors près de 4 années de terreur, de travaux forcés, de massacres, de famines. Certains historiens parlent de plus de 2 millions de morts et donc d'un génocide. Pizemam de la rédaction cambodgienne, une stèle vient d'être érigée dans un parc à Paris pour commémorer ce génocide.
Oui, Philippe, cette stèle de commémoration aux victimes de ce régime barbare a été inaugurée le 17 avril au parc de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris en présence d'Anne Hidalgo et quelques élus de la République. Cette stèle s'est vue le jour grâce aux efforts de plusieurs organismes, notamment l'Association des victimes de génocide des Khmers Rouges, la Fédération internationale des Ligues et des droits de l'homme et le Haut Conseil asiatique de France. Nous allons écouter Madame Ong Bun Hao, présidente de l'Association des victimes du génocide des Khmers Rouges.
Que vous a-t-elle dit?
Alors, elle disait que cette stèle sera là pour nous rappeler, nous les Khmers, qu'à une époque, nous avons traversé une terrible tragédie perpétrée par le régime des Khmers Rouges. Il est très important que nos enfants n'oublient rien de cette époque.
Alors, il s'agit du premier mémorial dédié aux victimes des Khmers Rouges dans le monde?
Oui, en effet, Philippe, cela peut paraître assez étonnant, mais il n'existe pas de ce type de mémorial officiel au Cambodge. Au cours de procès jugeant les anciens dirigeants des Khmers Rouges, la partie civile avait demandé comme compensation une construction d'un monument mémorial au Cambodge, mais cette demande n'a guère été considérée par les autorités cambodgiennes. Pour la communauté Khmer en France, cette stèle va permettre une mise en place, un travail de deuil et de mémoire plus officiel.
Mais revenons à ce qui se passe au Cambodge, ça veut dire que le travail de mémoire n'est pas une priorité pour le gouvernement actuel?
Non, il n'y a eu jamais de tel travail de mémoire au Cambodge. Cette page d'histoire n'est pas enseignée aux enfants à l'école. Le problème, c'est que parmi les hommes du pouvoir actuel, certains faisaient partie de la fratrie des Khmers Rouges avant de basculer dans le camp des Vietnamiens, libérateurs ou envahisseurs, selon certains. Le gouvernement actuel soigne surtout les messages propagandistes chaque année à l'anniversaire de 7 janvier 1979, le jour où l'armée vietnamienne chassait les Khmers Rouges de Phnom Penh, tandis que le travail de mémoire plus en profondeur concernant le régime des Khmers Rouges n'a jamais été entrepris. Comme disait le père Poncho, un des plus grands spécialistes de l'histoire du Cambodge, le Cambodge aujourd'hui est un pays sans mémoire. L'argent, c'est le roi. L'individualisme et le matérialisme sont aveuglants à tel point que les gens ont perdu le sens de morale et de mémoire.
La vie est sévère, donc le Cambodge est un pays sans mémoire. Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI. Depuis 1953, le 38e parallèle coupe la péninsule coréenne en deux. Mais la guerre de Corée n'est pas encore officiellement conclue, car à l'époque, c'est un simple cessez-le-feu et non un traité de paix qui avait été signé. Alors, il serait temps de régulariser la situation. C'est pourquoi la présidence sud-coréenne confirme qu'un traité de paix sera proposé lors du sommet intercoréen qui aura lieu le 27 avril. Nina Wang, cette fois, c'est maintenant ou jamais, d'autant que le monde entier espère que ce sommet aboutisse à un règlement de la situation.
Tout d'abord, ce sera la toute première fois qu'un dirigeant suprême nord-coréen rend visite au Sud depuis la séparation. Lors des deux autres sommets, c'était le président du Sud, Kim Dae-jung, lauréat du prix Nobel de la paix de l'année 2000 pour sa politique du rapprochement avec le Nord, appelée politique du rayon de soleil, et son successeur Noh Moo-hyun, qui sont allés au Nord. Cette fois-ci, le dirigeant du Nord, Kim Jong-un, se rendra aux côtes du Sud de la zone démilitarisée. Déjà, ce sera du jamais vu. En plus, il a même considéré compréhensible les exercices militaires entre le Sud et les Américains de cette année, sachant que son attitude normale face à ce qu'il appelle la provocation des États-Unis est leur laquais et de la condamnation absolue.
Il y a donc la volonté de négociation des deux parties, Nord et Sud-Coréen, d'autant que Pyongyang a assoupli sa position à propos de ses ambitions nucléaires.
Oui, récemment, Kim a rencontré très chaleureusement un haut officier chinois alors que celui-ci n'a pas été reçu par Kim l'année dernière, quand il s'est rendu visite à Pyongyang en tant qu'émissaire du président chinois. Côté américain, l'émissaire de Donald Trump, Mike Pompeo, directeur de CIA et futur secrétaire d'État américain, a rencontré Kim en avril, secrètement à Pyongyang, et Trump s'est déjà félicité d'une une langue commune trouvée entre les deux parties. On sait bien que la ligne rouge des États-Unis pour un sommet avec Pyongyang est la dénucléarisation de ce dernier. Ensuite, c'est le président de la Corée du Sud qui confirme que tout ce que le Nord veut, c'est l'arrêt de la politique hostile envers elle et une garantie de la sécurité. Elle n'a pas demandé ce que les États-Unis ne veulent pas accepter.
Et puis, Ninan, cet assouplissement de l'attitude du Nord a commencé aux Jeux Olympiques d'hiver, c'était en février là. Hein.
Oui, c'était quand les athlètes du Nord et du Sud se mettaient tous sous le drapeau de la péninsule coréenne unie. Avec le vent en poupe, la communication pourrait éventuellement remplacer l'hostilité et s'installer entre ces deux pays d'une même origine. Pour la préparation du sommet, on écoute une responsable de la Maison Bleue, présidente de la Corée du Sud.
오늘 4월 20일 금요일 남북 정상회담을 일주일 딱 7일 남겨뒀네요. 네, 7일 앞둔 오늘 청와대 소식
어제 그 디테일은
Il ne reste que 7 jours avant qu'on vit le sommet historique indo-coréen. Le 20 avril, une ligne de communication directe téléphonique entre les dirigeants des deux Corées est bien ouverte. Et la Corée du Sud a appelé en premier pour tester. Le premier appel entre les deux dirigeants se déroulera la semaine prochaine.
Un téléphone rouge, on appelle ça comme ça, comme il y avait à l'époque entre la Russie et les États-Unis.
C'est exactement ça.
Donc un téléphone rouge entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était Ninan Wang de la rédaction chinoise de RFI. À la rédaction anglophone, Laurent Martel, vous vous êtes intéressé, vous, à ce qu'a dit la première ministre britannique cette semaine. C'était devant 53 chefs de gouvernement, membres du Commonwealth. Ils étaient tous réunis à Londres.
Oui, Theresa May a profondément regretté l'héritage colonial des lois punissant les relations entre personnes de même sexe dans les pays de l'ancien empire britannique. On l'écoute.
I am all too aware that these laws were often put in place by my own country.
C'est donc Theresa May qui parle.
Et elle dit qu'elle a bien conscience que ces lois ont été souvent mises en place par son pays. C'était mal à l'époque et c'est mal maintenant. En tant que première ministre du Royaume-Uni, je regrette profondément tant le fait que de telles lois aient été introduites que l'héritage de discrimination, de violence et même de mort qui persiste aujourd'hui, explique Theresa May avant d'ajouter « Personne ne devrait subir de persécution ou de discrimination en raison de ce qu'il est ou en raison de ce qui ou elle aime. »
Alors, parmi les pays du Commonwealth qui ont conservé la loi de l'époque, datant donc de l'ère britannique, il y a notamment la Malaisie, Singapour ou encore l'Ouganda.
Oui, plus de 35 pays sur les quelques 53 ex-colonies britanniques ont des lois qui criminalisent les relations homosexuelles avec de lourdes peines, notamment la prison à vie pour une dizaine d'entre eux. En Ouganda, par exemple, le président Museveni a déjà qualifié les homosexuels de dégoûtants, leur action d'horrifiante. Et si les lois de l'Empire ont pavé la voie, eh bien interdire l'homosexualité est plutôt pour Museveni une question de respect des sociétés africaines et des valeurs africaines. Daniel Finan a parlé avec Adrian Djouko qui dirige une ONG qui apporte un soutien légal aux personnes LGBT en Ouganda.
Right now, a country like Uganda has moved on, not moved on in terms of moving from the colonial laws.
Que pointe ce militant associatif ?
Eh bien, il souligne justement que certains pays comme l'Ouganda ont dépassé les lois coloniales, alors pas dépassé dans le sens de laisser derrière eux, mais au contraire, d'être encore plus dur que ces lois coloniales. Pour lui, eh bien, il n'y a pas que les Britanniques qui devraient présenter leurs excuses, mais aussi plusieurs chefs d'État africains. Et surtout, bien sûr, ces leaders africains devraient prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux campagnes de haine contre les LGBT. Et quand Theresa May souligne que le Royaume-Uni est prêt à soutenir tous les membres du Commonwealth qui voudrait revenir sur les législations qui rendent possible de telles discriminations. Eh bien, Adrian Djouko se montre sceptique. Pour lui, par exemple, conditionner l'aide britannique, notamment au système de santé, à une décriminalisation de l'homosexualité, risquerait en fait d'être contre-productif, de nourrir le ressentiment contre les LGBT. Le changement réel ne peut venir que des sociétés africaines elles-mêmes, estime-t-il.
Laura Martel de la rédaction anglophone de RFI. Concernant les rédactions, justement, en langues étrangères de RFI, sachez que RFI poursuit son développement numérique au Brésil à travers 3 nouveaux accords de syndication, c'est le terme, 3 sites d'information brésiliens très suivis, relais RFI désormais, UOL, Estadão et Opera Mundi. En plus du numérique, Radio France Internationale en brésilien est présente à travers une diffusion de plus de 150 radios partenaires, des reprises par un millier de radios brésiliennes via la plateforme Agência Radio Web ou encore par la disponibilité du signal RFI en brésilien et en français dans 15 millions de foyers sur des bouquets à péage. Voilà, merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité du monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.